Radio Campus Lille, 18h.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Aujourd'hui, pour animer cette émission, nous sommes trois, il y a même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonsoir à tous.
Et de Dominique. Alors, Dominique, je ne t'entends pas très bien. Quel numéro autour de la table? Le 3.
Ah, bah, comme d'habitude.
D'accord, bah, j'en ai branché un qui n'est pas le bon. Alors, nous allons parcourir aujourd'hui l'actualité geek et ludique et nous avons des invités qui collent parfaitement à ce domaine. Nous accueillons Tiffaine, bonjour.
Bonjour.
Et Valentin.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux co-gérants du Walti Street, c'est bien ça?
Walti Street.
C'est des bonbons caramel, ça, non?
C'est quoi, Walti Street?
C'est Val, Valentin. Et Ti, plutôt que Titi, parce que ça faisait bizarre Val Titi quand même. Donc,
Ça faisait société de consommation pour les perruches, tu sais.
Et c'est une boutique qui offre plusieurs services et événements. On va détailler ça tout à l'heure, en détail. Mais c'est vraiment lié donc, à cette culture geek et ludique, et notamment avec une certaine spécificité peut-être sur le jeu de figurines, où ça tourne beaucoup autour de la figurine lorsqu'on entre dans votre antre, qui nous plaît à nous, puisque ça nous parle hein, de voir de belles boîtes de jeux, des petits pots de peinture. Alors, avant de détailler un peu ce qu'on peut trouver dans ce local, puisqu'il y a plusieurs salles, on le verra, hein, je fais du tease, je fais du spoiler. Est-ce que on a une habitude, c'est de demander à nos invités quel est leur parcours, comment ils sont arrivés dans ce domaine, alors ici de jeux de société, de wargame et autres. Qui veut prendre la première place d'honneur? Valentin, par galanterie, hein, forcément. Alors Tiffaine, comment c'est venu depuis le début, cette passion?
Alors je dirais un peu par hasard, pour moi en tout cas. Du coup, j'ai un parcours un peu chaotique, j'ai fait un peu de tout, je me suis cherchée longtemps, je ne savais pas trop quoi faire. Et alors dans mon parcours, j'ai atterri au Bazar du Bizarre à Lille, tout simplement parce que je cherchais un emploi en librairie. Ils m'ont proposé une place et la vie étant, j'ai eu donc beaucoup de clients et un de ces clients, c'était Valentin.
C'est moi, Valentin.
Enchanté.
Voilà, qui cherchait du travail, si possible dans le milieu ludique. Et du coup, le destin a bien fait les choses, je suis tombée enceinte. Donc forcément.
Mais pas de Valentin.
Oui. Non, attention, pas de Valentin. Du coup, j'ai forcément, quand on est enceinte, on a un congé maternité. Et quand un employé prend un congé maternité, il lui faut un remplaçant.
On rappelle que l'émission est diffusée en 2022. Hein. Si vous écoutez en 2030, on ne sait pas si c'est encore d'actualité.
Du coup, voilà, le remplaçant, ben, j'ai proposé à Valentin. J'ai dit, ben, écoute, je vais bientôt partir en congé maternité. Est-ce que tu veux venir travailler au bazar?
Le bazar étant une boutique qui est située à Lille.
Avec, oui, des bandes communes.
Voilà, tout à fait.
Où on trouve, comme son nom l'indique, un bazar de choses geeks allant du jeu de société. Je pense qu'il y a des mangas, il doit y avoir des comics.
Voilà, il y a manga, comics, jeux de société.
Les figurines style pop.
Les Funko Pop.
Ouais, les figurines cartes, style Wargames.
Tout à fait. Ouais. Un truc de geek. Tout.
C'est vrai qu'on parle souvent des autres boutiques de Lille, mais assez rarement du bazar. Donc voilà, ça leur fait aussi un petit clin d'œil.
Voilà, donc du coup, j'ai proposé à Valentin de prendre le poste, ce qu'il a fait. Donc nous sommes devenus, du coup, collègues. Je suis revenue de mon congé maternité. Et est-ce que tu veux raconter comment tu m'as proposé ça?
Bien sûr, bien sûr. Bah, donc, il faut savoir que moi, au niveau d'abord mon parcours, c'est que bah, j'ai toujours été un fan de tout ce qui va être jeu de figurines, autant quand j'étais petit, et jeux de rôle également, et jeux de cartes. Et un jour, bah, par hasard, dans mes études, je suis passé du coup à l'association Taverne Oubliée, que je salue d'ailleurs, donc de Lille 3, et qui m'ont fait découvrir plus en détail ses passions. Et en fait, à un moment donné, bah, on passe son temps à aller à l'association, à ne pas forcément suivre les cours qu'on devrait assumer. Et les aléas font que, bah, à un moment donné, je me suis dit, tiens, j'ai envie de bosser dedans. J'ai envie de vivre de ma passion, donc des figurines, jeux de cartes, jeux de rôle. Et bah, pour le coup, n'ayant pas fait d'études dans le commerce, bah, je me suis demandé comment je pourrais avoir ces capacités. Et c'est là que j'ai commencé à chercher un petit peu à droite à gauche, notamment au bazar, pour voir s'il pouvait recruter quelqu'un pour faire, comme on dit, mes classes dans le métier. Et puis c'est là que Tiffen m'a fait rentrer. Et bah, donc l'idée de base, c'était d'ouvrir une boutique qui avait à la fois du coup un espace de vente et d'un autre côté des salles de jeu pour accueillir les communautés. Comme je dis, je viens d'un milieu associatif, donc la rencontre, le jeu en lui-même et le partage, c'était important pour moi. Et bah, ce projet, c'était impossible pour moi de le faire tout seul, parce que bah, gérer tous ses côtés, c'était un peu compliqué. Et vu qu'on s'entendait très bien avec Tiffen, et qu'on était sur la même longueur d'onde, parfois oui, parfois non, mais qu'on savait faire des compromis, j'ai vu qu'elle pouvait être complémentaire à moi sur plusieurs sujets, plusieurs domaines. Et c'est là que, bah, par pur hasard, à un moment donné, je lui ai parlé de ce projet. Je lui ai dit, écoute, moi je veux ouvrir une boutique, je veux avoir des salles de jeu, je veux avoir du monde, et j'ai besoin de quelqu'un. Et je lui ai dit, j'ai besoin de toi. Je lui ai dit, t'es pour ou tu ne l'es pas, là. C'est comme ça que bah, Tiffen directement m'a dit oui. Donc j'ai fait bon, bah, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, mais en fait, c'en est venu de là. Donc Tiffen était plus dans le domaine de tout ce qui va être diorama, peinture, et moi j'étais plus sur le côté jeu en soi, et c'est pour ça qu'on est parfaitement complémentaires, parce que moi, toucher à la peinture et la figurine, j'ai pas les compétences.
Mais il n'y a pas que ça quand on monte une boutique de jeux. Enfin, connaître le produit, expliquer les jeux ou le matériel, le peinture, etc. Créer une boîte, enfin, c'est créer une boîte. On devient chef d'entreprise. Donc il y a aussi la compta, tout le problème, je sais pas, d'assurance. Enfin, je sais pas ce qui te vient à l'esprit. Mais...
Du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Alors moi, j'ai fait un master en littérature de jeunesse. Donc le master, à la base, l'idée, c'était de nous créer, de créer des futurs entrepreneurs en librairie. Sauf que le milieu de la librairie, c'est quand même... on va dire, en fait, le milieu de jeux de société, c'est pas mieux.
C'est
non, l'exemple est nul.
Très propre, en fait.
Mais voilà, en gros, j'ai eu des cours qui m'ont appris à gérer, entre guillemets, okay. Et où on me disait, bah oui, voilà, pour être chef d'entreprise, il faut ci, il faut ça, il faut... Voilà. J'ai eu une base. Quand j'ai fini mes études, je me suis dit, mais je viens de sortir de mes études, ouvrir une librairie là tout de suite, c'est un peu dur quand même. Donc je me suis dit, il me faut un emploi.
Ouvrir n'importe quel commerce d'ailleurs.
N'importe quel commerce quand on vient de sortir de ses études, pour moi c'est complètement fou. Il faut d'abord travailler avant d'essayer de voir comment ça fonctionne, etc. Donc j'ai travaillé quand même 8 ans au bazar avant. En septembre dernier, du coup, j'ai dû quitter le bazar pour une question simple qui est, mon fils a rentré à l'école. Mon mari était en poste alterné, donc il rentrait très tard, et ça finissait à 19h, le temps que je rentre, il était 20h. Bah, les garderies, ça finit pas à 20h, hein. Ça ne fonctionne pas. Donc pour une raison pratique, je me suis dit, bah tant pis, je dois démissionner, c'est le moment où je dois partir, parce qu'il faut que je trouve un système, il faut que je trouve une façon de garder mon fils qui me coûte pas un bras. Du coup, j'ai dit à Valentin, écoute, là, moi, je dois m'en aller. Pour mon fils, c'est plus possible. Il faut que je trouve une autre solution, il faut que je trouve une autre façon de faire. Donc, c'est le moment de dire au revoir au bazar. J'ai passé 8 ans là-bas, c'était très, très bien. Mais voilà, il y a un moment donné, c'est tout. Je devais changer. Donc, je suis partie et on a reparlé du projet. Et en octobre, commencé une formation à la Chambre des commerces pour justement ouvrir son entreprise. Donc, en fait, on a accéléré la machine.
Qui a été ralenti au préalable par, du coup, l'épidémie du Covid.
Un petit peu. Donc, c'est intéressant pour tous même les auditeurs. Quoi. On en est plein à avoir dit, ouais, bon, si je lancerais bien ma boutique ou j'ouvrais ma boîte, etc. Et comment démarrer, toi, ça va être avec quelques bases grâce à ces études. Mais c'est Oui, la chambre de commerce, c'est un bon démarrage. Il y a des formations, effectivement, il y a plein d'aides qu'on cherche, il y a plein d'aides de formation, de gens qui donnent des conseils pour monter un projet, etc. C'est très important. Il ouais, ne faut pas partir à l'arrache.
Voilà, et l'avantage, on va dire, de ces formations, justement, chambre des commerces, etc., ça va vous montrer tout de suite si vous êtes capable ou pas. Hein. Quand vous voyez tous les trucs, vous faites oh, ah oui, ok.
Ah ouais, parce que les gens qui vous accueillent, c'est pas forcément des entrepreneurs eux-mêmes, mais ils en ont beaucoup fréquenté. Il y a des anciens entrepreneurs qui font partie des conseillers, etc. Il faut frapper aux portes.
Pour le coup, la CCI va employer principalement des comptables, des personnes qui viennent de l'extérieur pour leur formation. Donc, c'est vraiment des comptables, c'est vraiment des personnes qui travaillent en tant qu'entrepreneurs.
Comme les normes et les lois et les règlements changent pas tous les ans, mais presque, il faut des gens qui soient vraiment à jour. Quoi. C'est pas une vidéo YouTube qui va t'apprendre les derniers règlements.
Alors, tuto comptabilité pendant mon seul jour de congé de la semaine.
C'est un bon début, mais bon.
Alors, comme tu l'as un peu commencé à l'énoncer, Valentin, on va retrouver dans votre boutique notamment plusieurs événements liés à ces salles qui sont derrière. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a d'autres événements que nous aimons aussi parler dans Heureusement en France, c'est tout ce qui va se passer ou qui s'est passé. Et je sais qu'autour de la table, nous avons tous participé à un événement en commun qui est en train...
Ils sont en train de boire un coup,
de manger les derniers sandwichs aux gens.
Finir les bières.
C'est le Hammer Time qui est proposé chaque année par la Forge Ludique. Nous en avons parlé plus que longuement dans l'émission.
Oui, on avait reçu Greg il y a 2 semaines pour en parler.
Alors, je pense qu'il y a certains, notamment Reynald et toi, Dominique, vous avez fait les 2 jours.
Une petite partie des 2 jours parce qu'à Lille, le week-end culturel était assez chargé, pas mal de trucs. Donc, j'ai réussi à ne pas passer toutes mes journées au Hammer Time. Donc, la majorité, on l'a passé à la buvette, faut dire.
Faut avouer, ouais.
Faut avouer.
À jouer à d'autres jeux qui n'ont rien à voir avec le Hammer Time.
C'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est vrai qu'on connaît, ouais, on connaît la plupart, pas mal d'exposants, que ce soit les boutiques ou les associations de jeux qu'on rencontre. On les voit pas, donc, on l'a discuté, etc. C'est vrai que on a joué un jeu, des jeux sur table, mais c'est vrai qu'on y va plus pour les rencontres, ce genre. On n'a pas fait de peinture, etc. Mais c'est vraiment très sympa de revoir tout le monde en attendant les prochains festivals. Les concours de peinture, il y avait du jeu en démonstration, il y avait beaucoup de magnifiques tables, on pouvait voter comme à chaque fois pour la plus belle table présentée. Il y avait vraiment de tout, hein, de Star Wars, du Far West, des jeux à la Mad Max, des jeux dans le futur, des jeux qui se passent à l'Antiquité et tout, c'est vraiment un sacré mélange. Et on a vu sur les 2 jours, j'ai pu voir dans le public des gens qui venaient, presque qui passaient par hasard en voyant les portes et qui entraient avec les familles. J'ai vu des familles, papa, maman, le garçon, la fille, typique, qui étaient en train de peindre des figurines, qui avaient sans doute jamais fait ça de leur vie, c'était vraiment concentré.
Et c'est vrai que la Forge Ludique a quand même ce petit truc d'initier les gens à la peinture. Et mine de rien, lorsqu'on voit les gens ressortir, le lendemain, on les voit chercher des pots de peinture dans les divers...
Il faut en acheter sur place, hein, c'est vrai que c'est bien.
Oui.
Alors, vous aussi, vous, Valentin Tiffen, vous avez fait l'événement.
Oui.
C'était votre premier Hammer Time ?
Nous, enfin moi, oui.
C'était aussi mon premier Hammer Time, oui, tout à fait. C'est Greg qui nous a invités, donc qui est passé à la boutique et qu'on avait déjà croisé sur à l'événement du coup de TGCM pour leurs 10 ans. Et qui nous a dit, mais venez, l'événement en plus, bah, c'est bientôt, faudrait que vous passiez, comme ça, ça vous permettrait de rencontrer d'autres personnes, de voir un petit peu d'autres associations, de prendre contact, tâter le terrain. Et puis bah, nous, on se dit, bah ouais. Et puis au final, quand on est venu aujourd'hui, donc nous, on n'a fait que le dimanche, malheureusement. D'ailleurs, on est passé, pas dire en coup de vent, mais on aurait préféré rester un petit peu plus longtemps, même s'il faisait très chaud. Hein. Mais ça nous a permis quand même de revoir des personnes qui nous ont approchés au démarrage de la boutique. Donc on a eu les Canonniers, donc, qui est aussi une association de modélistes, en plus du coup de l'équipe de la Forge Ludique, bien entendu. On a vu pas mal de peintres pros qu'on connaissait également d'avant.
Sur des chaînes YouTube.
Ouais, etc., tout à fait. Et dont un qu'on connaît pas mal qui s'appelle John Woodhouse. Je lui fais un petit peu de publicité. Hein. Double Six Mini, qui est du coup l'un de nos, on va dire, de nos amis qui fait également des cours de peinture au sein du coup de la boutique.
Donc c'est des cours de peinture, donc ça veut dire qu'il met une affiche, tiens, je serai là tel jour et vous ramenez vos figurines, on peint tous ensemble.
C'est lui qui fournit les figurines.
Alors c'est... Ah, il fournit carrément les...
Ouais.
On va donner, parce que les gens qui écoutent, ils ont peut-être envie d'aller voir. Alors Valty, ça s'écrivait A-L-T-Y, Street, on le trouve facilement sur Facebook, pas de problème, comme ça au moins il y a les horaires, les événements, les gens qui écoutent l'émission qui veulent en savoir un peu plus, vous pouvez aller voir directement les informations en les écoutant.
C'est à Lille, vraiment à la limite de Ronche, pour
oui.
le coup.
Oui,
c'est
donc,
Port de Douai, mais Port de Douai, la gare. Voilà, ça fait ouais. le métro. C'est ça.
Donc Port de Douai, un peu de marche ou même un petit bus plus loin et vous êtes arrivé.
Tu prends le train si tu peux.
Il y a même le train, ouais, effectivement.
Il y a tout, il y a le train, le vélo, le bus.
Ah, le train, t'arrives juste à côté, quasiment. Oui. Tu sautes du pont avec une petite pirouette.
Ça, ça change pas, parce que, mais mine de rien, effectivement, là, il y a déjà, c'est vrai qu'il y a déjà pas mal de boutiques de jeux du style de, sur l'île, dans le centre Lille. Hein, on connaît dans le vieux Lille. On parlait tout à l'heure des ponts de Comines, etc. On peut citer quoi, au Beau Jeu aussi, qui est rue du Molinel. Oui. Il y a pas mal. Il y en a sûrement plein d'autres que je connais pas. Que, et là, vous êtes un petit peu excentré, c'est un avantage aussi. Ça, j'imagine que le loyer est un petit peu moins cher que.
Tout à fait.
Surtout pour ça, oui.
Ça aide aussi, ce qui permet aussi d'avoir un espace, une salle derrière. Des salles que vous pouvez fournir, prêter gratuitement, si on, oui. on peut en parler aussi, par rapport à d'autres salles. C'est vrai qu'effectivement, les boutiques qui sont soit dans le vieux Lille ou dans le centre, c'est le moindre mètre carré se vend à prix d'or. Donc oui. c'est très difficile. Il faut choisir entre mettre un joueur, mettre une table ou mettre quelques boîtes de jeux. Bah, c'est pas évident. Quoi.
Non, ça a cet avantage, effectivement. C'est pour ça qu'on s'est excentré. Hein. Quand on a vu les prix en plein centre, on s'est dit ah, ok, soit on a une boutique de 10 mètres carrés, soit on a 150. 150.
Je vous propose une petite pause musicale avec un nouvel album qui s'appelle Anywhere But Here de Sorry. Le groupe s'appelle Sorry. C'est pas mal, Dominique. Et j'ai choisi cette chanson parce qu'elle s'appelle I Miss the Fool. Non, c'est pas I Pity the Fool.
Ah, ok.
C'est I Miss the Fool.
Les connaisseurs auront la référence.
Petit hommage à Mr. T.
Thank you.
I Miss the Fool du groupe Sorry qui nous vient de Londres, spécialisé dans le rock indépendant. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 106,6 dans l'émission Heureusement en France et on reçoit les deux co-gérants de Valti Street, cette belle boutique, hein, puisqu'en plus elle est toute neuve, spécialisée dans le jeu, figurines, avec notamment un peu de matériel pour le maquettisme.
Un peu beaucoup.
C'est vrai que ça doit représenter un certain partie de votre clientèle, puisque on n'en trouve pas forcément souvent. Et je sais que vous proposez certaines gammes qui sont assez spécialisées.
Oui, tout à fait. En fait, on avait commencé un peu plus restreint. Alors, en fait, la gamme maquettisme, modélisme, etc., c'est plutôt moi, du coup, qui ai dit à Valentin, il nous faut du produit, on n'en trouve quasiment pas par ici, c'est hyper compliqué. Et à notre bonne surprise, en fait, on a eu énormément de personnes qui sont venues pour ça, justement, ouais. Et qui cherchaient ces produits quelque part, en fait, en magasin, et qui sont très satisfaits. Sur Ronchin, il y a énormément de peintres. Ouais, il faut le savoir.
C'est un public qu'on visait pas forcément au premier abord, même si c'était quand même dans la thématique du projet. Mais on les a découverts petit à petit. On a vu que le rayon en fait a commencé à avoir plus de monde devant lui, alors que les rayons de tout ce qui va être jeu étaient un petit peu plus vides à ce niveau-là. Et c'est là qu'avec Tiffaine, on a décidé d'améliorer cette gamme. Et de développer ça, de faire un point pour nous différencier en fait des autres magasins tout simplement.
Alors il est possible gratuitement à certaines personnes de venir avec du matériel et d'utiliser certains équipements que vous avez dans des salles à l'arrière. J'ai vu qu'il y avait notamment quelque chose pour faire alors c'est pas du graphe on appelle ça, c'est du
l'aérographie.
Voilà.
Oui, tout à fait. On a un espace dédié à l'arrière de la boutique qu'on a nommé tout bêtement l'atelier. L'atelier est disponible pour les personnes du coup ayant du matériel avec eux, mais c'est un espace qui est vraiment dédié à la pratique du modélisme. Ça peut être de la simple peinture comme au montage, pour sous-coucher ses figurines, etc. etc. Tout le matériel, du coup, faut l'avoir sur soi, mais si jamais du coup, une personne a besoin d'un matériel en particulier, on a également en fait, des outils qui sont disponibles également dans cet atelier. Pour tout ce qui va être aérographie, on propose du coup une base, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut apprendre l'aérographie, donc on fait une petite initiation, c'est parfaitement gratuit. On fournit la figurine, on fournit les produits, on montre comment fonctionne un aérographe, donc comment le nettoyer, comment le monter, le démonter, comment changer les pièces.
Qu'un aérographe, enfin pour les gens qui imaginent bien, si vous avez déjà vu des robots qui peignent les voitures, c'est la même chose, c'est petit, ça tient dans la main, c'est la taille d'un stylo, et c'est vrai que c'est du matériel qui coûte cher si on veut de la qualité, et avant d'investir là-dedans, plutôt que de changer de ses pinceaux, un pinceau ça coûte quelques euros, c'est un petit investissement, donc c'est pourquoi pas tester avant, etc.
Tout à fait,
ça nous plaît.
C'est vraiment ce qu'on voulait proposer, c'était d'acheter tout bêtement entre guillemets un aérographe sans pour autant s'en servir. Je dis ça parce que bon, j'ai fait l'erreur, hein, il fut un temps où j'ai acheté un aérographe sans m'en servir. Il est encore tout neuf. Hein. Et l'intérêt c'était vraiment pour... aux personnes, c'est d'avoir une première approche avec cet outil et de montrer, de dire, plutôt que d'investir tout de suite dans le vent ou après avoir écouté un tuto YouTube, tu viens, nous on te montre directement ce que c'est. Si tu t'en sens capable, d'ailleurs, tu fais ce que tu as à faire. Si par contre tu dis, ah non, au final, c'est pas pour moi, c'est trop minutieux, au moins tu as eu quelqu'un comme nous, du coup, qui t'a dit, voilà, on t'a montré ce que tu es censé avoir après, en fait, tout simplement.
Et ce qu'il ne faut pas faire, ne pas le mettre dans sa bouche, par exemple, des choses oui. simples.
Il faut savoir que beaucoup de peintres mangent de la peinture, c'est courant.
Le nombre de pinceaux que tu nettoies à la bouche plutôt que de les nettoyer à l'eau et le sopalin, on l'a tous fait, et on le fait encore. Hein, mais...
Tout à fait.
Est-ce qu'on peut parler des gens qui, à un moment, se trompent, au lieu de prendre le gobelet d'eau, prennent le gobelet dans lequel ils ont trempé leur pinceau hein, ça, c'est et arrivé
c'est
près
pour
de
ça,
chez vous.
C'est pour ça qu'il faut boire de la bière en même temps que tu peins, parce que t'es sûr de pas te tromper.
Quoique. Tiens, ça pétille plus.
Oui, je l'ai fait au témoin.
Ah, alors j'imagine que parmi vos clients, il y a les gens du... Comment s'appelle déjà le Ronchin Model Club. Oui. On les croit souvent. Je pense qu'ils étaient... Oui, ils étaient au Hammertime parce qu'on citait TGCM tout à l'heure pour leurs jeux Carnage et Briscard. À chaque fois, il y a toujours des magnifiques tables. Et on sait que les gens du Ronchin Model Club, c'est des fans de Briscard, de leurs belles figurines. Ouais. Et ils font toujours des tables hallucinante.
C'est dingue, leur table, enfin, on connaissait déjà d'avant, mais là, les avoir vus en vrai pour les 10 ans du coup de TGCM, ils avaient vraiment une bonne douzaine de tables, mais c'est vraiment, c'est pas de la table vraiment... C'est du 3D, c'est-à-dire que vous avez vraiment de cette impression en fait de gigantisme de la table.
Que tourner un film d'animation dedans et des petites figurines, c'est incroyable.
Il avait ramené son bateau.
Il ramène tout le temps l'impression. Ouais,
c'est impressionnant Martel. Le bateau quand tu le vois.
Alors, puisque je pense que ça fait partie de votre gamme également, mais les figurines ici de TGCM sont plus grandes, plus grosses, plus imposantes.
C'est une autre échelle, tout à fait.
Et c'est vrai que lorsqu'on veut faire des beaux détails en peinture, ici, on a de quoi vraiment se faire plaisir.
Même si on ne joue pas au jeu. C'est le genre de jeu, tu le prends pour les figurines.
Et comme on le dit souvent, ça permet d'aider une boîte française.
Ouais, hein, du coin.
Ça peut changer des pulls rouges. Alors, on parle d'événements, de Dominique. Il y a plusieurs choses peut-être à détailler, à venir dans notre agenda.
Le prochain festival de jeux à venir, il y en a plusieurs qui arrivent, hein, c'est les 5 et 6 novembre, donc dans deux semaines, si je ne dis pas de bêtises, à la Gorgue. C'est organisé par les Démago, l'association des Démago. C'est le festival du jeu des Démago, c'est au complexe sportif Pierre de Coubertin. Alors là, c'est l'initiation, démonstration pendant deux jours, de 19h à 19h. Les 5 et 6, vous allez sur le site Facebook de l'ED plus loin Mago et Mago-ETS, vous aurez toutes les informations et pour vous inscrire, parce qu'il y a des tournois, il y a du jeu de société, de figurines, du jeu de rôle, des contes ludiques, il y a des auteurs de jeux qui seront là, des illustrateurs, du cosplay, des tournois grandeur nature, des livres de littérature fantastique, enfin bon, voilà, j'arrête là, mais il y a plein de choses. C'est la deuxième édition. Donc alors c'est de bon courage, c'est dans deux semaines, j'ai vu l'organisateur tout à l'heure, ils sont en pleine préparation. J'ai discuté avec lui, il était mortel, comme par hasard. Je le crois sur tous les salons, de toute façon. Donc,
C'est là qu'on voit que le Hammer Time, quand on suit depuis ses premières éditions, commence vraiment à rassembler une communauté assez forte. Et c'est marrant parce qu'on a croisé quand même beaucoup de gens qui sont venus dans l'émission au Hammer Time.
Exactement, et des gens qui organisent des salons aussi. Hein, Thiel avec son salon de l'enjeu. Il y a les arpenteurs de rêve qui étaient là, puisqu'ils en commenceront bientôt en novembre aussi. On n'a pas vu Mike Monnier aujourd'hui, mais on rappelle que le Ludigeek, un de nos festivals favoris, c'est une semaine après le festival du jeu de Mago. C'est les 12 et 13 novembre à Luin, on le rappelle, dans la salle du manège, pas la salle du ménage. on en reparlera, on le réannoncera la semaine prochaine, bien sûr.
Alors, vous avez également un événement à venir la semaine prochaine et qui va être dans le thème, puisque c'est une soirée, un week-end Halloween.
Un week-end Halloween, donc on va commencer, donc exceptionnellement on va ouvrir le dimanche 30 de 13h à 22h, alors au public de 13h à 19h, mais il y a un événement de 20h à 22h si vous êtes inscrit.
Et
ça dépend. Et le lundi, pareil, on va ouvrir également donc de 13h à 19h au public. Et si vous vous êtes inscrit, de 20h à minuit.
Avec du jeu de rôle.
Avec du jeu de rôle, tout à fait. Dimanche, on fait du coup un résultat pour un concours, parce qu'on a fait un concours de diorama. Donc il est encore temps, vous avez une semaine, hein, si vous voulez vous y lancer. Le premier
diorama, mais bon,
c'est un peu court. Hein.
Alors, il n'y a pas de taille minimum, il y a une taille maximum.
Sauf pour une bataille de Warmaster, mais encore.
Et voilà, sachez que si vous voulez le faire sur notre page Facebook, il y a tous les détails, le règlement du diorama.
C'est quoi ?
Un diorama ?
Oui.
C'est une scène.
C'est une scène
où tu mets en valeur mise en situation des figurines.
Des figurines posées sur des socles devant un fond blanc ou bleu ou noir, mais tu
fais quelques conversions pour avoir des figurines qui ont un mouvement, une attention, ou quand tu regardes justement un diorama, tu ressens ce qui se passe. Par exemple, une charge de cavalerie dans une infanterie, ou tout simplement une ruelle médiévale avec un champ avec deux figurines en plein duel.
Avec des figurines, j'essaie d'imaginer un diorama où c'est pas du combat.
Une
table de banquet façon Astérix, tu vois, où ils sont en train de manger.
Tout simplement. Après, tant que t'es fort en conversion, tu peux faire ce que tu veux.
Mais voilà, du coup, on a un concours spécial diorama d'Halloween, hein, donc ça doit être dans le thème d'Halloween. Donc c'est large, l'horreur. L'horreur, en général, ça fonctionne. Et l'élément, c'est qu'il faut quelque chose qui brille dans le noir. Peu importe la façon dont vous le faites, il faut quelque chose qui brille dans le noir.
Lumière noire.
Enfin, aussi. Ouais. La lumière noire fonctionne également. Voilà, okay. C'est un petit détail qu'on nous a demandé et on a dit oui. Du coup, on a la présentation des dioramas le dimanche. Ensuite, initiation, présentation du jeu Moonstone qui nous vient d'Angleterre, qui est une petite nouveauté, qui devrait arriver, on croise les doigts fortement, qui devrait arriver avant la fin de la semaine. Reste à charge pour nous de monter tout et essayer de les peindre avant dimanche.
Challenge accepted.
Du coup, au soir, on a un quiz Halloween de 20h à 22h.
Un quiz de quel type ? Musical ?
Pop culture. Pop culture en général.
Pop culture en général, cinéma, sur les films,
musique, jeux vidéo, voilà, c'est juste pour se faire plaisir. De 20h à 22h.
Parce qu'on aime bien les quiz.
On adore les quiz. Le lundi, du coup, on fait un Let's Paint Together, qui est la réalisation d'un diorama collectif, tous ensemble. Donc, que vous sachiez peindre ou non, vous êtes les bienvenus.
Tout est fourni.
Voilà, tout est fourni. On demande une petite participation de 5 euros parce que voilà, on va fournir les peintures, les figurines, mais du coup, c'est pour apprendre tous ensemble, c'est pour s'amuser tous ensemble, passer un bon moment.
Toujours cette optique de rencontre entre débutants et vétérans. Et,
voilà.
Et l'optique, c'est vraiment un partage de la passion du rama et de la peinture en général et d'apprendre l'un comme l'autre.
Voilà. Et au soir, de 20h à minuit, nous faisons donc 3 parties de jeux de rôle.
Je dors l'Halloween.
Pas tous en même temps. Hein. Donc chacun, en fait, donc Valentin va nous présenter du Donjon et Dragon.
C'est ça, Donjon et Dragon by Night. Donc c'est, le nom est repris d'une série qui est sortie récemment sur Disney+, sur Marvel, donc Werewolf by Night. Donc c'est l'idée de faire une partie de Donjon et Dragon, mais au lieu de jouer donc des héros, hein, on va appeler ça comme ça, donc des aventuriers héros, les joueurs vont vraiment incarner ce qu'il y a de plus de basique. Donc ça va être des fermiers, des personnes dans un village. Et l'idée, c'est que il va se passer des choses dans ce village et ils devront mener l'enquête.
J'ai cru qu'ils allaient incarner des monstres, le
Steve. Oui, ça aurait été sympa d'incarner des anti-héros.
Du coup, on a un ami qui va faire du Cthulhu. Forcément. Alors sachez que pour le Cthulhu, c'est complet. Voilà, donc vous ne pouvez plus vous inscrire pour le Cthulhu, c'est
complet.
On ne
pourra pas perdre des points de santé mentale, mais dommage.
Quel dommage.
C'est déjà plein. Il reste de la place, du coup, sur le Donjon et Dragon. Et,
alors, Cthulhu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est du Lovecraft, c'est
Lovecraft. Tout à fait.
C'est un univers qui est très basé sur l'horreur, qui se passe dans les années 50-60.
Ah, il y a plusieurs époques dans le jeu de rôle.
Il y a plusieurs époques, ouais. Il y a l'époque classique, contemporaine, et après, il peut y avoir également du futuriste. C'est juste que la plupart du temps, les scénarios sont vraiment basés sur les années 1920, tout simplement. Parce que c'était l'univers qui a été décrit en fait, dans les nouvelles et romans de Lovecraft, donc d'Howard Philip Lovecraft. Et voilà, le jeu de rôle est issu de son univers.
Et c'est un jeu de rôle où il ne faut pas trop s'attacher à son personnage.
Ouais, ça rappelle des souvenirs.
Ça rappelle un mur qu'on avait où on affichait les personnages qui étaient morts dans les jeux de rôle. Donc il y avait un cimetière de feuilles comme ça. Mais il y avait les 3/4, c'était du Cthulhu avec des points de santé mentale. Marqué fou.
Et les circonstances de la mort.
Hein. Les personnages qui survivaient n'étaient pas forcément en bon état.
Et donc moi, je fais du Alien.
Ah.
Ah. Donc petit spoil, hein, on sera dans Alien 2 hein, dans l'idée. Donc je fais du Marines.
Et petit spoil, vous allez mourir comme des merdes.
Je sais pas si c'est un spoil.
Une autre musique, peut-être. J'ai plein d'albums. Dominique, je te garde les Arctic Monkeys pour la fin de l'émission, au cas où nous serons parmi nous pour parler de logiciels libres. J'ai un groupe assez folk qui s'appelle The Unthanks, qui sort également un nouvel album. C'est leur premier, qui s'appelle Sorrows Away by The Unthanks. Et le titre qu'on va s'écouter, c'est The Bay of Fundy.
Just a green wave passing by.
Thanks. On avait tout à l'heure Sorry, là on a Unthanks avec The Bay of Fundy pour leur nouvel album.
Des groupes qui prennent leur nom et leur titre au hasard dans le dictionnaire, ils ouvrent une page au hasard et hop, je pense.
Ça peut donner à certaines surprises.
Générateur aléatoire comme pour les noms de jeux de rôle.
On avait, je ne sais pas si tu te souviens, Dom, un projet, c'était d'ouvrir. Alors est-ce que c'était le Dico?
Ah! Non, le Wikipédia aléatoire.
Oui,
on l'a fait, ça. On le refera un jour.
Donc, on ouvrait le.
C'est qu'on est à court de sujet, oui.
On ouvre le Wikipédia et puis on parle d'un sujet.
Il y a un lien sur Wikipédia où tu peux afficher une page aléatoire parmi les milliards de pages de Wikipédia. Et on parlait de ça.
Juste pour ta culture, du coup. C'est...
Challenge, c'était de tenir 5 minutes sur un sujet complètement aléatoire.
C'est que tu vois la page et. T'as même pas le temps de le lire parce que t'es directement sur la page, mais ouais. T'es en direct aussi. Donc tu lis le titre, tu lis la phrase du résumé du titre, mais après c'est à toi de développer.
C'est extrêmement drôle.
Et tu dois développer ton argumentaire tout en lisant pour pas trop dire de conneries.
Si possible, trouver un morceau de musique qui colle en plus.
Mmh. Voilà.
Okay. On le refera un jour.
Sympa.
Et c'est là que tu comprends que y a beaucoup de choses sur Wikipédia. des trucs très spécifiques et là tu fais waouh.
Et surtout, pourquoi sur moi? Pourquoi ça tombe sur moi cette page?
Donc nous sommes avec Tiffaine et Valentin de Valti Street, une nouvelle boutique qui vient d'ouvrir ses portes à Lille.
Port de Douai.
Pas loin, juste à la limite de Ronchin.
L'adresse exacte, tu sais? Alors, je l'ai plus.
128
rue du Faubourg de Douai. Voilà.
Je dis depuis tout à l'heure, je suis grune, mais en fait, il n'y a pas que ça. Il y a également des cartes, puisque je pense que vous. Quand j'ai été, j'ai dû faire la queue pour vous parler avec beaucoup de joueurs de cartes qui étaient là, passionnés de chacun. Et je pense que les salles derrière doivent être aussi occupées de personnes qui veulent s'affronter, découvrir de nouveaux joueurs ou peut-être créer leur petit tournoi.
Eh ben, disons que oui, effectivement. Donc là, nous, on propose des tournois donc de différents types. Hein. Principalement, nos gammes, c'est Yu-Gi-Oh, Flesh and Blood, Magic pour les plus connus. Pokémon, pour l'instant, on va dire qu'on n'a pas encore le public. Nous, on se concentre vraiment pour Pokémon sur le public des enfants, pour leur apprendre du coup à jouer au jeu, comment échanger, les raretés des cartes, etc.
Et vous avez des événements Poké-Kids.
Les Poké-Kids, tout à fait, oui. Tout à fait. Vraiment pour initier... les petits, tout simplement.
À jouer un autre jeu de cartes. Donc, on leur vend du Pokémon.
À dépenser des parents.
Voilà. Surtout que tu vois beaucoup d'enfants qui échangent en braderie, qui cherchent des cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Bon, surtout Pokémon. Mais parce que c'est le côté collection, c'est une nouvelle carte qu'ils n'ont pas, etc. Mais par contre, quand tu joues vraiment à Pokémon, le jeu de cartes en lui-même, tu te rends compte que c'est pas un jeu pour gamins à la base.
Non.
C'est énormément de.
Il est pensé pour la compétition.
Il est pensé. C'est comme Yu-Gi-Oh! Oui. Yu-Gi-Oh! Pokémon Magic, c'est des niveaux de jeu qui...
C'est vrai que quand tu connais pas ou tu joues pas, tu dis, bon voilà, mais au Hammer Time, j'ai discuté avec... oui, c'est ça, il y avait un père qui expliquait qu'il s'est mis à Yu-Gi-Oh! Avec...
C'était Pokémon.
Pokémon, oui, et effectivement, il discute avec nous, et il a découvert que le jeu était vachement profond, vachement stratégique, etc., et il est devenu accro. Et
mais pas son gamin.
Son gamin a grandi, il n'y a pas autre chose, tu vois.
Bah en fait, ces jeux de cartes, vu qu'ils datent maintenant de plusieurs années, hein, au départ, effectivement, les jeux étaient plus faciles à prendre en main parce qu'il n'y avait pas encore trop de règles. Je parle au moins pour Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Mais maintenant, en fait, ils ont dû se développer pour concurrencer les autres jeux. Et au fur et à mesure, c'est vraiment devenu des références de jeux compétitifs. Hein. On monte le nombre de compétitions Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic et maintenant Flesh and Blood depuis le Pro Tour à Lille. C'est dingue, quoi. Enfin, il y a vraiment énormément de joueurs. Là, par exemple, pour vendredi dernier, on était en pleine FNM, donc les Friday Night Magic, obligatoire donc pour être boutique partenaire Magic. Mes salles étaient complètes. Enfin, j'avais 42 joueurs. Enfin, vous imaginez à quel point c'est énorme pour une boutique. Enfin, vous imaginez.
Mais Magic, ça fonctionne encore bien. C'est incroyable.
Oui. Et ils fêtent leur 30 ans, 50 ans, je sais plus là.
Non, 50 ans. Peut-être pas 50.
J'ai cru que tu allais dire leurs 30 milliards, mais non.
Non, c'est
j'ai un doute, mais ouais, c'est 30 ou 35.
30 ou 35 ans, parce qu'ils sortent un pack justement pour fêter ça, et qui est pas du tout pour les collectionneurs de cartes que nous sommes.
Non.
Mais justement, là, et c'est un des plus anciens jeux, mais qui fonctionne encore très bien.
Ils ont eu l'intelligence de renouveler leur game en ajoutant des. Alors, est-ce qu'on peut appeler des thèmes différents sur le jeu ou...
Oui, en fait, faut savoir que. Pour jouer au jeu en termes de compétition, il faut suivre ce qu'on appelle, alors après ça dépend des formats, mais en général, il faut suivre un bloc. Et le bloc, en gros, c'est toutes les sorties à l'année. C'est-à-dire qu'à l'année, vous allez avoir, imaginons, non, si je dis pas de bêtises, c'est 4 ou 6 extensions. Ça dépend parce qu'il y a les hors-série.
T'as la base plus... Ouais. T'as l'édition de base qui est rééditée avec quelques aménagements de règles, de codes sur les cartes. Et tu as un bloc qui est nommé, comme tu dis, où t'as la sortie de base de ce bloc plus... au minimum 2 extensions.
Tout à fait, c'est ça. Et là, actuellement, ils ont changé légèrement leur format. C'est que tu n'as plus une édition de base qui sort, un corps de base. Ils n'appellent plus comme ça, parce qu'avant, c'était genre base 2020, base 2019, etc. Maintenant, en fait, ils sortent juste un corps. Donc là, le dernier sorti, c'est Dominaria. Où on revient, en fait, à la genèse du jeu. Donc c'est le plan principal de l'univers de Magic. Dominaria, c'est de là où viennent tous les Planeswalkers. Donc les Arpenteurs, hein, pour ceux qui connaissent... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des gens qui vont de plan en plan, donc ils changent d'univers, ce qui permet en fait au jeu de pouvoir varier et de trouver des ficelles pour avoir des nouvelles extensions. Par exemple, il y a une extension qui date maintenant d'il y a quelques temps, mais qui s'appelle Ikoria, la terre des Behemoths. C'est totalement inspiré en fait de tout ce qui va être Kaiju, donc Godzilla, etc.
Je suis en train de regarder le programme à venir de la semaine prochaine. Le Poké Kids, c'est le mercredi, j'imagine.
Mercredi, oui.
Par hasard.
Étrange.
Yu-Gi-Oh, c'est le jeudi.
Le jeudi, oui, tout à fait.
Le soir, 19h. De toute façon, toutes les infos, c'est sur le Facebook de Velty Street, hein, c'est pas compliqué. Le Magic le vendredi, etc. Flesh and Blood, c'est un jeu que je m'y suis pas intéressé parce que je lui dis, c'est encore un jeu, il y en a plein qui sortent, il va tenir un petit moment. Puis... Mais celui-là, il a l'air de s'accrocher.
Ouais, il a l'air de s'accrocher et en fait, il a pas l'air, il s'accroche. Ouais. Parce que, en fait, dites-vous que moi, quand j'ai découvert le jeu, donc Flesh and Blood, déjà, il y a des gens qui sont venus m'en parler, ils me disent, ah, il faudrait que tu joues à ce jeu-là. Parce que l'auteur, on dit, c'est le nouveau Richard Garfield. Alors pour ça, qui disent qui est Richard Garfield, c'est le créateur de Magic. Donc à partir du moment où quelqu'un se dit une communauté, toute une communauté qui vous dit le nouveau, enfin ce gars-là, ce néo-zélandais, bah c'est le nouveau Richard Garfield. Et là on se dit mince, on va découvrir, on va pousser un petit peu plus le sujet. Et puis du coup on fait les recherches de Flesh and Blood quelques semaines avant le Pro Tour, j'y reviendrai après. Et bon, on se constate que ouais, le jeu il est bien fichu, il est équilibré, il est intelligent, il est différent des autres jeux, parce que généralement on base toujours sur une côté ça va être pas dire une copie, mais on va s'inspirer de Magic pour créer son jeu de cartes.
Très original, oui.
Bien sûr, tout à fait.
À part quand on s'appelle Richard Garfield.
Tout à fait.
Mais je croyais que c'était le créateur de Keyforge.
Voilà, aussi.
Aussi, ah. oui, bien sûr. Bah, c'est un grand nom hein, qu'on retrouve.
Un grand commercial. Ouais, ouais.
Il a toujours des idées.
Et surtout aussi de certains jeux de plateau qu'on a pas mal joué.
Ouais. Ah, du genre
Il y a Dice Dungeon and Dangers qui a été ressorti chez Ravensburger ou Alea. Et celui où on se fout sur la gueule, pour, on joue justement des gros monstres et qu'on se fout sur la
King
gueule.
King of Tokyo.
King of Tokyo, merci.
Ouais, oui, donc il a fait pas mal de jeux. Donc bon, pour en venir du coup à Flesh and Blood, bah, quand il y a eu ça, on s'intéresse au jeu, on voit que du coup il est différent des autres. Et on nous annonce après, bah, vous savez, faudrait que vous développiez un petit peu le jeu également dans votre boutique parce qu'il bah, y a le Pro Tour qui arrive. Alors on dit, c'est quoi le Pro Tour? En fait, il y a juste l'auteur et son équipe qui étaient à Lille, Grand Palais, paf. Et à ce moment-là, bah, on va dire qu'au niveau de nos joueurs, on est passé de 4 joueurs qui jouaient ensemble, bah, facilement 15-16 joueurs en fait. Donc là, on se dit, oui, c'est à suivre, vraiment à suivre.
Mais c'est ça qui est sympa pour le jeu de cartes. À part pour le côté collectionneur, il faut que tu trouves des amis. Alors, c'est pas forcément des adversaires, hein, puisqu'on joue ensemble à un jeu, c'est ça, même si c'est l'un contre l'autre.
Voilà, c'est des rencontres régulières, ça permet de sortir de voir du monde. Hein.
Alors, on parle ici de jeux de cartes. J'ai vu qu'il y avait aussi des petits dungeon crawlers aussi. Qu'est-ce que vous recommandez si demain je veux m'initier à un dungeon crawler?
Là, c'est pareil, hein, c'est des boîtes qui coûtent assez cher, hein, 1960, 100, 200 euros des fois, plein de sujets, il ne faut pas se tromper. Hein, celle-là, l'avantage d'une boutique de jeux, c'est qu'on est là pour vendre, c'est sûr, mais il faut vendre le bon jeu à la bonne personne, sinon elle ne va pas revenir.
Quoi. Non, c'est l'intérêt, c'est vraiment de faire un conseil pertinent en fonction de ses attentes. L'idée, c'est qu'en fait, elle, dans le jeu, c'est qu'on lui présente le jeu, et quand elle achète le jeu, en fait, elle se sent sereine, et quand elle jouera au jeu, elle sera sereine, en fait. Elle sait à quoi elle s'attend. Le but, c'est pas du coup de fournir.
Pas prendre la poussière.
Bah, c'est ça, faut pas que ça prenne la poussière. On a joué une fois, on dit bon, bah, c'était sympa et c'est tout, quoi.
Voilà, là, faut vraiment pousser. Quand on conseille quelqu'un, on lui dit pas juste bah, je vous conseille ce jeu-là. Hein, c'est bien, vous prenez ça et puis vous êtes content. Non, on va vraiment pousser, on va dire bah voilà, qu'est-ce que vous aimez, c'est quoi votre style,
avec qui vous allez jouer,
vous allez jouer à combien de personnes, vous aimez bien les jeux longs ou alors les jeux un peu plus courts.
Est-ce que vous avez une grande table?
Oui.
C'est bête.
c'est totalement un critère.
Mais voilà, on va vraiment essayer de voir ce qui peut faire plaisir à la personne plutôt que lui vendre un jeu lambda. On est des genres de vendeurs qui, bah, si on n'aime pas un jeu, on va le dire. C'est pas bien, mais enfin, attention, on ne dira jamais qu'un jeu est nul. On dira que nous, on n'aime pas. Il y a des goûts et des couleurs. J'aime pas forcément la même chose que Valentin. Valentin n'aime pas forcément la même chose que moi. Donc il faut savoir que voilà, c'est. Mais si nous, on n'aime pas le jeu, si on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas le cacher. On va argumenter et on va dire bah voilà, moi je trouve qu'il y a un défaut parce que je trouve que ça c'est pas bien fait et ça me gêne personnellement. Après, des fois, ça fonctionne quand même. Donc vraiment, on va essayer de pousser et de trouver qu'est-ce qui peut vous faire plaisir.
Et du coup, tu nous parlais d'un petit conseil que tu voulais avoir. Moi, je pense que je te conseillerais Massive Darkness, parce que c'est vraiment... Je sais pas si tu
as... Je ne connais pas du tout.
Eh bien, écoute, c'est un super jeu qui a eu une première version qui a énormément bien fonctionné. Et là, du coup, il y a sa V2 qui est sortie maintenant il y a un petit mois, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Hellscape. Et c'est le renouveau du Dungeon Crawler, c'est-à-dire que tu as toujours ton personnage. Tu as un système où tu peux jouer vraiment... on va dire dans un système générique, c'est-à-dire que tu peux refaire des parties à l'infini, et t'en as une autre où t'as vraiment un mode campagne, avec progression de ton personnage, où au fur et à mesure il va gagner des niveaux, il va gagner des compétences. Pour moi, c'est le digne héritier de plusieurs dungeon crawlers, dont l'un des plus connus qu'on a parlé tout à l'heure hors antenne, HeroQuest.
HeroQuest, oui, qui fonctionne à merveille, je pense. Et non, Dominique.
C'est bon, si t'as envie de perdre des heures, oui, je veux pas, je veux bien. Oui,
mais... qui a été réédité par Kickstarter et qui refonctionne très bien, enfin qui a trouvé sa cible en tout cas.
J'ai l'impression de voir des boîtes partout, donc je me dis que ça fonctionne.
Depuis qu'ils ont sorti une extension qui n'était pas là lors du premier tirage des années 80, oui, bah maintenant t'as des personnes qui veulent jouer, connaître ces nouvelles règles, les nouvelles figurines, les nouveaux scénarios surtout. Et donc ils ont trouvé leur cible d'acheteurs.
Gens qui aiment bien acheter des dés, puis laisser le hasard décider de leur vie, c'est ça.
Ouais.
Bon, il y en a qui le font avec des jeux de plateau et des jeux de cartes.
Ouais, et si on jouait à risque.
Par contre, je voulais juste vous demander, parce que là, on parle de jeux de figurines, on parle de jeux de rôle, de jeux de plateau, etc. On a fait un rapprochement avec le Hammer Time, donc ce qui fait qu'on a en tête certaines figurines, par exemple de TGCM ou autre. Juste savoir, pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous faites des figurines aussi... Bon, par rapport au modélisme et au maquettisme, pour des figurines de petit format, comme par exemple Airfix ou Italeri, qui peuvent reprendre sur l'Antiquité, ou les, par exemple, Première, Seconde Guerre mondiale, ou les guerres napoléoniennes. Est-ce que vous rentrez dans ce domaine-là ou pas? Ou alors, est-ce que c'est vraiment, par exemple, les figurines des jeux actuels de maintenant?
Alors, notre but, c'est d'étendre notre gamme plus tard. Là, pour l'instant, on n'en a pas. Venez pas chercher ça en boutique, vous ne les aurez pas, on ne les a pas en magasin. On a pour projet de bientôt implanter tout ce qui est gamme saga. Donc, il y a de l'historique hein, dans saga. Il y a plusieurs pirates, époques. Il y a du fantastique tout. Aussi. Il y a vraiment de tout. Du coup, ça va arriver. Il faut juste qu'on ait le temps d'implanter un petit peu à la fois, qu'on se fasse un peu plus de sous. Hein. Il n'y a pas de secret. Mais du coup, ça doit arriver.
C'est un peu plus de niche, peut-être.
Ouais. C'est un petit peu plus de niche, mais ça avait été quand on avait fait les travaux dans la boutique. Il y a plusieurs personnes qui sont passées devant et qui nous demandaient ce qu'on faisait. Donc, quand on leur expliquait, ils ont dit « Ah, bah tiens, moi, je faisais du modélisme du coup de char, je faisais de la reconstitution et tout. Mmh. » On s'est dit « Bah oui, c'est un public qu'on pourrait toucher également. » mais c'est juste qu'effectivement, actuellement, on s'est dit que c'est un public tellement de niche, effectivement, que...
Ils ont leur source.
Et puis, il y a déjà sûrement quelques boutiques sur l'île même qu'ils ont, après, tout à fait.
Ils ont déjà ce qu'on appelle leur crémier, quoi.
Voilà. Et par contre, juste pour... après, je te vois, je repasse la main, François.
Mais prends ma place. Hein,
c'est vrai, je peux. Oh, merci, c'est super. Ouais. Non, mais par rapport... parce qu'on parle beaucoup de vente, mais est-ce que vous faites des occasions? C'est-à-dire, si moi, je viens avec mes paquets de cartes, on parlait de Magic, Yu-Gi-Oh! Ou autre, ou de figurines, ou de quoi que ce soit, que je viens en disant, bah moi, je joue plus à ça, je voulais m'en débarrasser. Est-ce que vous gérez aussi de l'occasion ou pas?
Non, on ne gère pas d'occasion. Il faut savoir que par la suite, ce qu'on aimerait développer, c'est un dépôt-vente. Pas d'occasion, tout simplement, parce que c'est une gestion qu'à deux, on n'arrivera pas à faire en plus de tous les événements qu'on fait, tout simplement, hein, on n'est que deux. Mais par contre, un système de dépôt-vente, ça, on y a réfléchi. Et on a aussi un système d'impression 3D qu'on veut bientôt lancer, ça on peut le dire aussi, hein, on en a parlé. Donc voilà, ça va arriver plus vite que le dépôt-vente.
Oui. Et après, bah, tout ce qui est occasion, le problème, c'est que y a aussi le problème de stockage. Il faut savoir où stocker ça. On ne sait pas si ça va être sur une période donnée ou pas. Et pour ça qu'à deux, ce n'est pas gérable. Maintenant, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on fait actuellement, c'est un peu dérivé de la boutique. Mais vu qu'il y a énormément de communautés qui viennent jouer, par contre, on peut vous mettre en relation avec des gens qui peuvent potentiellement être intéressés. Donc ça, c'est le petit avantage. C'est pas nous directement, mais vous trouverez plus facilement en fait des personnes en rejoignant du coup la boutique, tout simplement.
Avant de clôturer l'émission, Dom, tu avais peut-être un mot à dire.
Petit agenda, oui, vite fait. Ouais, on n'a pas encore parlé de figurines, mais figurines avec des briques. On essaie de pas citer une marque.
J'ai vu qu'il y avait quelque chose à l'Illenium.
Oui, c'est ça, l'Illenium, le grand magasin qui est du côté de l'île sud, quoi. Mm-hmm. Oui, c'est le Brickmania. C'est pas la première fois qu'ils le font. C'est la deuxième fois. C'est dans le centre commercial Brickmania, des expositions avec des dioramas. On peut appeler ça géant, avec des briques. Je sais pas citer la marque. Je suis content. Mais toute la semaine, ça commence demain, le lundi 24, jusqu'à vendredi, je crois, vendredi 29 octobre. Voilà, si vous passez dans le coin. En allant chez Val District, qui est pas très loin.
C'est gentil.
Est-ce qu'il y a d'autres événements? Parce que je suppose qu'après Halloween, vous n'allez pas vous arrêter. Est-ce que vous avez déjà des petites idées sur d'autres choses? En tout cas, je vois qu'il y a des événements quasiment tous les jours, hein, du mardi au dimanche. Il y a beaucoup d'activités chez vous.
Oui, on essaye quand même de proposer un maximum d'événements. Également, tout ce qui va être initiation le week-end, parce que en termes d'horaire, c'est un petit peu compliqué de faire ça en semaine. Le week-end, c'est un petit peu plus posé, donc là, on peut se permettre du coup de faire des initiations. On veut également voir avec du coup des auteurs de jeux pour passer à la boutique pour proposer des rencontres auteurs, ce qui est fait en convention, mais de temps en temps, on peut avoir un public qui ne veut pas forcément se déplacer pour aller en convention, voir trop de gens, etc., ou faire la queue.
On pourra vous voir sur des festivals ou des conventions, c'est prévu pour l'instant ?
Alors, pour l'instant, on a été invité, donc un festival très bientôt, mais on essaye du coup de se faire inviter justement, mais vu qu'on est un petit peu nouveau, c'est faut faire nos...
Tu veux être que deux, donc c'est pas évident.
C'est ça, faut faire nos preuves, et c'est pour ça qu'en fait, on va dans les conventions pour... se montrer, montrer qu'on existe, prendre des contacts. Mmh. Et bah, c'est comme ça que là, ouais, on commence à développer un petit peu mieux de notre com et les événements.
Donc, voilà. Pour sûr, on se recroisera dans de prochains événements. On vous remercie.
Merci à vous.
Fenn et Valentin d'avoir participé à cette émission que vous pouvez réécouter en podcast sur le site de Radio Campus ou sur notre site anotherpodcast.fr. On laisse la place à l'écoding. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Heureusement en France. On se quitte avec le nouvel album de The Arctic Monkeys.
Oui, qui est produit par James Ford. Un grand nom pas très connu, mais il a travaillé avec Florence and the Machine, avec Depeche Mode, avec Gorillaz, etc. Donc c'est un type qui, quand il met la main sur un album, en général, ça donne quelque chose de bien. Ils ont aussi des noms bizarres dans leurs chansons. Ouais.
J'ai pris une chanson qui s'appelle Hello You. L'album
t'as pris la plus simple à prononcer.
L'album s'appelle The Cars.
The Cars. Elaborate for awakened thought, vortex to vortex, the business they call show hasn't ever been this pumped up before. Hello gruesome, there's just enough time left to swing by and readdress the start. If you're calling, I won't pull around the car and stop specializing in stories from the message I left on my thank you card, overtaking the tractor, waiting for sets of wines and bends to level out again. Picking a moment along a country lane, the kind where the harmonies feel right at home.